16h51, Raphaël, salut.
Salut.
Donc, l'ex-président Barack Obama là, est prêt à sauter sur la glace politique, mais pas pour revenir en politique.
Non, pas pour revenir en politique et de façon intéressante, pas non plus pour appuyer explicitement un ou une candidate, essentiellement à sa succession, là, à la tête du Parti démocrate comme candidat présidentiel en vue de l'élection de 2020. Mentionnons, Patrick, à la base que le comportement de Barack Obama vis-à-vis la course démocrate est très inusité, c'est très inhabituel. Si tu prends, par exemple, les deux derniers présidents démocrates à avoir servi, soit Jimmy Carter et Bill Clinton, dans les deux cas, leurs vice-présidents, Walter Mondale et Al Gore, respectivement, avaient subséquemment eux-mêmes brigué la Maison-Blanche, brigué la présidence. Mm-hmm. Et dans les deux cas, les ex-présidents Carter et, dans le cas de Bill Clinton, il était encore en fonction, le président Clinton avait très tôt dans le processus appuyé leur bras droit, leur vice-président. Dans le cas de Barack Obama, on le sait, il refuse très clairement depuis le début de cette course-là d'appuyer Joe Biden et refuse d'appuyer qui que ce soit d'autre. Mais ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est qu'il aurait dit en privé, il y a à peine quelques jours, qu'il était prêt à intervenir personnellement si jamais il sentait que Bernie Sanders, le candidat qui est à sa deuxième course, on sait qu'il avait aussi brigué la Maison-Blanche il y a 4 ans, en 2016. Donc, si Bernie Sanders, selon Barack Obama, commençait à devenir un candidat qui risquait de remporter l'investiture du parti, Obama interviendrait pour essayer de lui bloquer la voie. C'est quand même assez remarquable.
Est-ce qu'on sait comment l'ex-président Obama compterait là, intervenir?
De ce qu'on en a compris, il serait prêt à prendre la parole publiquement pour essayer de dissuader les électeurs démocrates de confier les rênes du parti à Bernie Sanders. Maintenant, c'est aussi remarquable dans un contexte où on s'en rappellera justement en 2016, les partisans de Bernie Sanders ont très mal digéré l'espèce de, disons-le comme ça, là, de coups un petit peu montés par les hautes instances du Parti démocrate pour favoriser Hillary Clinton dans la course à l'investiture. Ils ont eu beaucoup de misère à digérer ce coup-là. Et là, on apprendrait, quoi, à peine 4 ans plus tard, qu'on aurait potentiellement une version 2.0 de ce qui s'est passé en 2016. Donc, il y a ça qui est assez particulier, peut-être assez dangereux pour l'unité du Parti démocrate. Et ce qui est également assez intéressant, c'est que, de ce qu'on en comprend, M. Obama serait pas nécessairement convaincu qu'un candidat aussi à gauche que Bernie Sanders soit capable de remporter une élection générale contre Donald Trump. La question que ça soulève, c'est...
Oui, mais écoute, Hillary Clinton n'était pas à gauche, puis elle a quand même perdu, là.
Ben, c'est pas juste ça. Ce que j'allais te dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de différence entre Elizabeth Warren et Bernie Sanders. Et il n'y a aucun signe comme quoi Barack Obama voudrait bloquer la voie à Elizabeth Warren. Donc, pourquoi Sanders, c'est un problème et Mme Warren n'en est pas un? Écoute, ça suscite beaucoup, beaucoup de questions et de réactions, ce qu'on a appris là, à travers les branches aujourd'hui.
OK, Raphaël, on va sortir un peu de la politique. Tu vas nous parler d'une histoire de justice criminelle là, qui est pas banale en banlieue de Washington, à Baltimore.
En effet, mais écoute, on a parlé de Baltimore beaucoup, on le sait, depuis les derniers mois, souvent pour les mauvaises raisons, malheureusement. Là, on en parle pour des raisons qui sont très, très particulières. Un dossier de justice criminelle, comme tu as dit, qu'on ne voit pas tous les jours. Aujourd'hui, mardi 26 novembre, c'est le premier jour de liberté pour Alfred Chestnut, Ransom Watkins et Andrew Stewart. Tu vas me demander qui sont ces types-là. Eh bien, ce sont trois hommes qui ont été emprisonnés pour un meurtre d'un adolescent de 14 ans dans une école secondaire, alors qu'ils étaient eux-mêmes adolescents. Et ça, c'était en 1983. Ça fait donc, fait le calcul rapide, là, 36 ans qu'ils étaient en prison et qu'ils l'étaient de façon erronée, de façon injuste. On a prouvé qu'ils avaient été injustement accusés, injustement condamnés, et donc on vient de les libérer. Et donc, tu as un aspect de ça qui est évidemment magnifique. Un des ex-prisonniers expliquait que lorsqu'il a appris la nouvelle qu'il allait être libéré après toutes ces années, en fait, toutes ces décennies-là, il était assis sur son lit d'hôpital et ne pouvait plus s'empêcher d'arrêter de pleurer tellement que c'était chargé comme moment émotionnellement. On le comprend, il y a quelque chose de beau là-dedans. Ce qui est beaucoup moins beau et beaucoup plus troublant, par contre, c'est le fond de cette histoire-là. Et le fond de cette histoire-là, de ce qu'on en comprend, c'est que ça ne serait pas une pauvre erreur innocente. C'est qu'il y aurait carrément eu des témoins qui se seraient fait forcer la main pour faire condamner ces trois types-là alors qu'ils étaient innocents. Et on aurait même, au niveau des autorités policières et de l'État du Maryland, caché des preuves qui incriminaient un autre homme à l'époque qui lui-même a été abattu quelques années plus tard. Donc, quand on connaît en plus de ça l'historique de la justice, ou plutôt de l'injustice vis-à-vis des Afro-Américains, ces trois types-là sont de race noire. Ça rajoute une couche qui est très troublante.
Oui, des histoires comme ça, là, il y en a souvent, mais dans ce cas-ci, là, trois innocents qui sortent après 36 ans de prison là, en même temps, là, c'est vrai que ça frappe l'imaginaire.
Ça frappe l'imaginaire.
Merci beaucoup, Raph. On se reparle demain. Il est presque 16h57. Au retour, Luc Ferrandez et Pierre-Yves McSween vont être là avec les accros de la télé. Pierre-Yves, notamment, là, qui va revenir sur la bêtise des ventes pyramidales. Beaucoup de réactions à sa chronique d'hier au Québec maintenant.